l'écologie intégrale au cœur du Pays Basque. Une émission proposée et réalisée par Jeanne Busson.
Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet important, nous allons parler du liga. Donc c'est une boue marron et visqueuse qui aujourd'hui tapisse les fonds marins juste sur nos côtes. Je suis aujourd'hui avec Serge Larzabal, président du comité interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins, le CIDPMEM 6440, donc basé à Cibourg pour les Pyrénées Atlantiques et les Landes. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview.
Bonjour, merci à vous.
Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer donc ce qu'est le liga? Liga, je crois que vous l'avez observé il y a à peu près une vingtaine d'années. Voilà, si on peut remonter déjà un petit peu en arrière pour comprendre le phénomène.
Le liga, c'est en fait le nom, appellation locale. Hein, il y a différents noms en fonction des zones géographiques dans le monde. Mais le nom le plus connu, c'est le mucilage marin. Il suffit de taper mucilage marin sur Google et mon ami, et je pense que tout le monde va voir ce que c'est. Alors, le phénomène est connu de bien plus longtemps que ça. Hein. Ça fait plus de 40 ans qu'on connaît ce phénomène, mais qui était très épisodique. On le voyait un peu au printemps, un peu en automne, puis voilà, ça venait, ça partait. Et on a vraiment senti une accélération du phénomène, effectivement, au début des années 2000, date à laquelle d'ailleurs le comité des pêches a lancé des études financées pour savoir un petit peu d'où ça venait, ce que c'était, voilà. On a lancé des études, il y en a eu plusieurs, et les derniers résultats sont sortis en 2018. Donc un phénomène, purement un phénomène d'eutrophisation, donc apport de nitrate, azote et phosphate, qui s'accentue. Ça s'est accentué début des années 2000 jusqu'à 2012. Là, ça commençait vraiment à en avoir de plus en plus. Depuis 2018, il y a une vraie accélération. Une vraie dégradation, mais quand on parle de dégradation, c'est une dégradation importante. Il faut savoir que les principales documentations qui existaient sur ce phénomène étaient un phénomène adriatique, dans la ville de Rimini, et c'était toutes les images et de la documentation qu'on avait. Donc pendant, au début des années 2000, pour expliquer le phénomène, on prenait comme documentation les photos de Rimini.
Quel est l'impact sur la biodiversité, donc sur la pêche?
Donc on se servait comme documentation tout ce qui était à Rimini, sachant qu'à Rimini, ce phénomène-là a quand même été extrêmement préoccupant, puisqu'ils ont perdu pendant plusieurs années plus de 60% de tourisme, qui était un peu comme nous, la côte basque, l'essentiel de l'activité économique là-bas. Donc aujourd'hui, voilà, depuis 2018, je peux vous dire que les photos, les vidéos que l'on a, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs dans le monde, c'est les photos de la côte basque. Et en fait, aujourd'hui, on a un vrai tapissage des fonds de ce liga, de ce mucilage marin. Les photos, c'est les vidéos, c'est des plongeurs, c'est l'Ifremer qui les fait, donc on n'a pas de soucis, voilà, c'est pas du photomontage, hein, soyons clairs.
Quel est l'impact sur la biodiversité, donc sur la pêche?
Il était sensible voilà, dans les années 2012 et jusqu'en 2018. Et là, aujourd'hui, les baisses de rendement sont catastrophiques pour la pêche côtière. Depuis 2018 jusqu'à maintenant, là, on voit une vraie baisse d'apport en criée. Alors, quand on voit des pêcheurs qui n'y a plus de poissons, voilà, c'est pas toujours qu'on a tout pêché. C'est-à-dire que si on ne pêche pas, c'est que le poisson n'est pas là. Donc, la qualité des eaux, pour nous, c'est primordial. Donc, aujourd'hui, on a cette relation que l'on impute clairement à la qualité des eaux, où on ne pêche pas parce que le poisson ne reste pas là, et que les bateaux étant tous des petits bateaux totalement inféodés à la bande côtière, qui réglementairement n'ont pas les possibilités réglementaires de pouvoir aller plus loin, ils sont obligés de rester là. Et c'est surtout les petits bateaux côtiers qui sont impactés puisque le poisson ne rentre plus.
Donc je rappelle, nous sommes avec Serge Larzabal, président du comité interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins, pour parler donc de la prolifération du liga sur nos côtes. Est-ce que vous avez aussi du recul par rapport à des effets néfastes sur la santé?
Alors on l'a vu, du recul sur des effets néfastes sur la santé, qu'on avait signalé, puisque les pêcheurs nous signalaient régulièrement pas mal d'irritations au niveau des mers, des fois des projections dans les yeux, des conjonctivites. On l'avait signalé, bon, on nous a toujours dit qu'il n'y avait pas de preuves sur le sujet. Aujourd'hui, on peut dire que les éléments sont là, hein, avec Ostréopsis, qu'on a vu cet été. Donc effectivement, quand on nous a dit qu'il n'y avait pas de preuves, donc on s'est rapproché d'une association de dermatologues, et on a mis en ligne un service pour qu'on puisse nous déclarer tous les phénomènes. Alors certes, ils ne sont pas tous graves, hein, mais des phénomènes de problèmes de santé.
C'est Sylvie Pérez,
ouais. Tout à fait. Et là, j'ai pas fait le point totalement avec mon chargé de mission, mais je crois la semaine dernière, on était à plus de 500 cas qui étaient recensés sur le site. Donc c'est plus une ou deux personnes, c'est 500 cas.
Votre comité interdépartemental des pêches donc, a porté plainte contre X en juin de cette année pour mettre en lumière les responsabilités de cette pollution par le biais donc, d'une enquête judiciaire. Où en est l'enquête ?
C'est la plainte sur le ras-le-bol, hein. Il faut être clair. Je veux dire que si nous avions eu l'écoute plus attentive et que des choses concrètes sur du curatif, comme avoir classé les eaux de la côte basque en zone sensible d'eutrophisation, qui entraîne une obligation réglementaire de traiter l'azote et le phosphate et tout ce qui est nitrate, voilà, on aurait eu un début de commencement. Donc aujourd'hui, rien n'est fait. Et la énième réponse qui nous a été apportée a été, je dirais, la réponse de trop qui ne nous a pas convenu. Donc on a décidé collectivement, tout le comité, de porter plainte. Donc on a porté plainte contre X, notamment sur les eaux résiduelles qui sont rejetées en mer et pour pollution. Donc aujourd'hui, la plainte est sur le bureau du procureur. Les dernières informations que j'ai, c'est qu'une enquête va être ouverte. Donc c'est difficile de porter plainte contre quelqu'un dès lors qu'il vous répond qu'ils sont dans les règles. Par contre, il y a un certain nombre de règles qui n'ont pas été respectées. Donc on verra bien que donnera l'enquête en termes de responsabilité.
Merci pour ces précisions. Donc je rappelle, nous sommes avec Serge Larzabal, président du comité interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins, pour parler donc de la prolifération du LIGA sur nos côtes. Alors le CEPENSO 64 Pyrénées-Atlantiques fait partie de la fédération CEPENSO, elle-même affiliée à France Nature Environnement, via le collectif du CAD, le collectif des associations de défense et de l'environnement. Elle vous soutient dans votre lutte contre la prolifération du LIGA et veulent des réponses sur la qualité de l'eau. Ils ont donc décidé de vous rejoindre dans cette plainte contre X en septembre 2021.
On peut se satisfaire que nous avons créé une convergence de points de vue avec d'autres associations, je dirais, plus à vocation environnementale que les pêcheurs. Parce que quand on dit les pêcheurs, on parle toujours l'économie de la pêche et la production. Mais la pêche, c'est aussi l'environnement. Mais bon, effectivement, avec une plaine de la CEPENSO et du CAD, nous avons deux associations clairement identifiées sur l'environnement, qui ont porté plainte aussi, qui nous ont emboîté le pas. C'est de l'intérêt collectif et général de l'ensemble des acteurs, d'ailleurs, qu'ils soient professionnels et pas que de la pêche. Hein. Je pense que l'industrie du tourisme doit s'inquiéter, si rien n'est fait, de l'avenir. En 2018, nous avions plus ou moins prévenu ce qui pouvait éventuellement se passer dans les années futures. Ben, les années futures ont été beaucoup plus courtes que prévu. Et si on regarde les effets de ce mucilage marin, de l'eutrophisation, comme exemple toujours du Rimini, on peut déjà, d'ores et déjà, anticiper de savoir que si rien n'est fait immédiatement, ce qui pourrait se passer dans les quelques années qui arrivent.
Alors, dans un article reporter.net paru le 21 septembre dernier, vous dites « Après 20 ans de bataille et de discussion, les réponses des élus sont toujours les mêmes. Ils trouvent d'autres responsabilités et mettent tout sur les rejets de l'embouchure de la Dour. » Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Non, les réponses sont toujours les mêmes. Et on n'a jamais dit le contraire d'ailleurs. On nous dit que globalement, sur l'année, c'est l'embouchure de la Dour qui apporte la plus grande quantité de nitrate. Les stations d'épuration ne représentent qu'environ 5%. Donc effectivement, quand on regarde les choses globalement, mais je veux dire que ça, c'est une non-réponse, parce que de toute façon, on ne fait des prélèvements qu'une fois par mois. Et quand on sait que ce phénomène de trophisation, le phénomène de boom d'algues vertes ou de boom de LIGA peut se faire dans les 48 heures, effectivement, on passe à côté de tout un tas de données. Donc déjà, avec une fois par mois de prélèvement, ce n'est pas suffisant. Mais quand bien même, aujourd'hui, on sait que rien qu'avec ce prélèvement d'une fois par mois, si on fait une compilation sur les 10 ou 15 dernières années, il y avait déjà des signes permettant de classer les eaux de la côte basque en zone sensible d'eutrophisation. Effectivement, je veux bien qu'on accuse toujours les pollutions diffuses et les agriculteurs qui ont fait des efforts, qui doivent certainement en faire encore. Mais dans l'Adour, il n'y a pas que les agriculteurs, il n'y a pas que les pollutions diffuses. Il y a aussi, tout le long de l'Adour, un certain nombre de stations d'épuration qui rejettent dans l'Adour. Et quand on sait que dans les Pyrénées-Atlantiques, 50% des stations d'épuration de plus de 2000 habitants ne sont pas aux normes, l'Adour, principal contributeur, oui, mais à des périodes où c'est que le phénomène est minimisé. Des apports dans une eau à 12-13 degrés quand il y a du mauvais temps à l'hiver, parce que voilà, l'Adour, c'est octobre, novembre jusqu'à avril, mars-avril. Après de mai à octobre, à septembre, l'Adour est à l'étiage, il n'y a plus d'eau qui coule, donc c'est plus eux qui apportent. Et le phénomène que nous on rencontre, il est surtout essentiel du printemps à l'automne et pendant l'été. Donc là, clairement, c'est bien le problème des stations d'épuration et du traitement des eaux. Et rejeter dans une population multipliée par 5 en plein été, dans des eaux à 22, 23, 24 degrés, quand il fait beau, quand il n'y a pas de mauvais temps, c'est évident qu'il y a un gros problème sur ce sujet-là. Et contrairement à ce que pensent beaucoup d'élus, ils en ont eu la preuve cet été, c'est pas uniquement quand il y a des fortes pluies qu'il y a des problèmes de qualité. Quand il y a des fortes pluies, ils ont des problèmes, oui, bactériaux avec Escherichia coli. Mais le phénomène d'eutrophisation, il y est tout le temps.
Merci beaucoup Serge Larzabal. Je rappelle, vous êtes président du comité interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci, avec plaisir.
L'écologie intégrale au cœur du Pays Basque. Une émission proposée et réalisée par Jeanne Busson.